Patrick Devraise, bonjour.
Bonjour.
Heureux de te retrouver, parce qu'il y a longtemps en fait que je suis ton parcours et tes expositions, le travail photographique que tu mènes, notamment en région Hauts-de-France.
Oui, vraiment, je suis né dans les Hauts-de-France et c'est vraiment une terre qui m'intéresse. Pas seulement parce que j'y vis, mais parce que j'y photographie.
Donc cette histoire de la photo dans ta vie, elle intervient à quel moment ?
Eh bien, ça va très vite parce que à l'âge de 11 ans, on m'a offert un appareil photographique pour la communion qu'on faisait à l'époque. Et puis je m'en suis emparé vraiment et j'ai commencé à photographier, puis ça n'a jamais arrêté. Et ça a continué après dans mes études d'enseignant. J'ai fait mes études à l'école normale d'Arras où je suis devenu instituteur. Et où je suis très vite devenu l'instituteur photographe. Et donc mener une double vie, mais pas tout à fait une double vie, parce que c'est deux vies qui s'imbriquent, ma vie d'enseignant et ma vie de photographe.
Donc, dans les photos que tu présentes actuellement, dans le cadre de ces deux ouvrages, hein, l'un en noir et blanc, l'autre en couleur, on verra après comment tu distingues les choses, hein. Tu démarres les photos que tu présentes à quelle période de l'histoire ?
Alors on est dans les années 70. Pour moi c'est un peu plus que le début de ma photographie, mais c'est on peut dire quand même au commencement. Le bassin minier, moi je l'ai vécu à Billy-Montigny. Je suis né d'un père qui était géomètre du fond et d'une mère commerçante. Dans une ville qui porte une empreinte minière, hein, qui est importante, et j'ai très vite commencé à photographier les courons parce que c'était quelque chose qui m'attirait. Et d'ailleurs, j'y ai trouvé ma femme, donc c'était vraiment très important pour moi. Et j'ai pu être dans le milieu des courons assez facilement, accepté aussi. Et puis de découvrir une vie qui m'était un peu étrangère, mais tellement, tellement humaine et tellement passionnante.
Donc ces deux ouvrages, Coron, hein, les deux s'appelant Coron, sont à la fois des témoignages et aussi des hommages.
Exactement. À ma belle famille, c'est un hommage à ma femme, c'est un hommage à tous les gens que j'ai connus dans les corons, que je remercie de m'avoir accepté dans leur milieu.
Évidemment, dans les photographies que tu présentes, alors tu as fait des choix, hein, forcément, et peut-être selon les deux albums que tu produis, l'un étant en noir et blanc et l'autre en couleur, à partir de ces médias différents, tu as choisi certaines photos pour l'un, certaines photos pour l'autre.
Il faut dire que ce travail-là, il est un peu particulier parce que ce sont des images que j'ai redécouvertes, que j'avais oubliées, que j'avais laissées au fond de mon atelier, sans le vouloir, et puis qui ressurgissent à notre époque. Déjà ça, c'est surprenant parce que je les ai redécouvertes comme si c'était pas moi qui les avais faites. Quelque chose d'assez, je dirais, bizarre pour un photographe, c'est de regarder ses propres photos et en ayant tout oublié de la façon dont elles avaient été faites, du lieu surtout où elles avaient été faites. Mais petit à petit, c'est revenu. Et j'ai retrouvé exactement maintenant, je sais où j'ai fait les photos, dans quel lieu, dans quelle ville. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné par rapport à la mémoire humaine, quoi.
Donc évidemment, toi, en tant que personne, tu as changé, la société a changé, et ton regard sur ton témoignage de l'époque, peut-être s'est enrichi de ce que cet endroit, ces sites que tu as visités sont devenus.
Oui, certainement. Et puis d'autant plus qu'entre deux, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec Culture Commune, j'ai travaillé avec le 99 bis, j'ai travaillé avec la médiathèque de Carvin, avec vraiment des lieux culturels importants du bassin minier. Et je pense que ça enrichit encore plus mon regard et puis ma compréhension du milieu.
Donc ces photos, elles témoignent d'une époque passée, aussi d'une époque dont il reste des traces. Est-ce que tu retrouves dans les photos que tu as prises, des endroits, des sites, voire même des personnes que tu avais à l'époque photographiées et qui sont quelque part encore existantes dans le moment actuel.
Alors oui, j'ai pas retrouvé de personne, mais je désespère pas parce que à Vimy, c'est la première exposition et donc il y avait personne de Vimy dans les photos. Mais je pense à Billy Montigny, à Drocourt, à Rouvroy, à Salomine aussi qui vont présenter l'expo. Certainement, il y a des contacts qui sont en cours. Mais je pense que je vais retrouver des personnes. Par contre, les lieux, oui, je les ai retrouvés. Au début, je me disais vraiment, mais où est-ce que j'ai fait ça ? J'avais plus la mémoire. Et pourtant, je pense à Drocourt. Je travaillais à Drocourt. J'avais mes élèves à Drocourt, mes élèves qui habitaient dans les Corons. Et c'était parti, quoi. Et là, c'est revenu en force.
Donc, cette mémoire que tu as, actuellement, elle peut être précieuse, ou elle est précieuse, notamment dans le cadre de la mémoire du bassin minier avec ce label UNESCO, etc. Tu as l'impression de contribuer à cette culture ?
Il y a tout un travail qui est fait, là. Je pense notamment à la Cité des électriciens à Bruay, où moi ça me semble un peu aseptisé, où je ne retrouve pas cette vie. Il n'y a plus la vie, c'est vrai, mais elle n'a pas vraiment marqué le lieu. Alors, avant l'exposition à Vimy, je suis retourné à Drocourt pour essayer de retrouver justement ces lieux que j'avais photographiés. Et alors, ça a vraiment été une grande émotion de me retrouver là, vraiment face. J'avais l'impression que j'avais le décor et que j'entendais l'ambiance des gosses qui jouaient dehors, etc. Et ça a été très fort. Et en même temps, j'ai mis ces photos avant de les publier sur Facebook. Et j'ai donc eu énormément de réactions des gens qui ont déposé des avis, qui étaient enthousiastes et qui me disaient « il faut faire un livre, c'est formidable, j'ai vécu là ». Déjà ça, c'était très fort. Mais ensuite, j'ai pas seulement eu des avis de personnes qui vivent dans le bassin minier, mais j'ai eu aussi des gens du sud de la France et tout, et qui ressentaient une émotion en regardant mes images, qui ne connaissaient pas du tout les Corons, qui ne savaient pas ce qui avait existé et tout. Et ça m'a surpris, et je pense que c'est aussi ce qui aide à une reconnaissance, quoi, de ces lieux, de ces gens, de ces habitations qui n'ont pas totalement disparu, où la vie n'est plus pareille d'ailleurs.
Donc justement, que la vie ne soit plus pareille, ça oblige d'une certaine manière le traitement de ce qui a été une vie à être modifié au fil du temps et donc à ne pas restituer la réalité de ce que toi, tu témoignes.
Alors l'important, je pense, c'est de, quand on est devant l'image qu'on a choisie, parce que le gros problème, c'était aussi quelles images je vais choisir parmi les centaines que j'avais. C'est toujours le problème du choix des photographes. Mais qu'est-ce que je vais montrer et comment je vais traduire l'émotion ? Le moyen que j'ai trouvé, c'est de me laisser aller, de prendre le fichier, de le mettre dans Photoshop, et puis surtout pas de dénaturer, mais peut-être de travailler sur certaines valeurs, d'amplifier des lumières, ou au contraire de les assourdir un peu. Jusqu'au moment où je me disais, c'est ça. C'est-à-dire où je ressentais l'émotion. Je dirais pas que j'avais eu en prenant la photographie, puisque je m'en souvenais plus a priori. Mais je propose cette photo-là, et cette photo-là, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est un peu ce qu'elles disent, ce que j'ai envie qu'elles disent.
Donc, on a feuilleté ensemble ces deux albums, l'un en noir et blanc, l'autre en couleur. Et effectivement, on peut imaginer que selon la technique, les intentions soient très différentes d'un album à l'autre.
Alors, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des intentions, mais il y a eu un laisser-aller de se faire transporter par les images, d'abord de découvrir l'ensemble, et puis ensuite de choisir, et ensuite d'établir un ordre de présentation. Je crois que là, j'ai travaillé avec tout ce que je sais de la photographie, de ma pratique, mais aussi tout ce que je connais des autres photographes, hein, de leur production, de ma collection de livres photos qui dépasse les 500-600 ouvrages et que j'ai dans la tête. C'est un peu ça. Et puis, toutes ces influences ressurgissent et se concrétisent, se cristallisent dans une photographie. Et ça se reproduit pendant toute la sélection.
Alors, qu'est-ce que peut apporter le noir et blanc que n'apporterait pas la couleur et réciproquement?
Alors, le noir et blanc, je pense que ça induit une profondeur... une intelligence de l'image qui est peut-être plus forte, plus prégnante, plus sentimentale aussi, hein, puisque ça, actuellement, quand on voit du noir et blanc, on pense au premier film, couleur, ou certains chefs-d'œuvre qui sont en noir et blanc. Et une grande intériorité, peut-être. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas ça dans la couleur, mais la couleur est plus... Elle survole peut-être un peu plus le sujet, elle est plus démonstrative, elle s'imposait un peu plus. C'est deux moyens différents qui s'offrent aux photographes et qui ne sont pas forcément faciles à maîtriser l'une et l'autre.
Alors, c'est vrai aussi que la couleur, dans notre région, où il y a des ciels étonnants parfois, évidemment, c'est un plus pour présenter ses originalités, ses spécificités et ses beautés.
C'est sûr, hein, c'est sûr qu'on est dans une région où le temps change vite aussi, et puis le ciel dont tu parles a vraiment une présence qui est importante et qui agit en même temps sur nous, quoi, que ce soit dans les périodes de temps différentes, et puis qui éclaire aussi différemment. Quoi. Ça peut être des couleurs orangées, ça peut être plus bleu, ça peut être... Sachant qu'après, on peut maîtriser tout ça. Mais l'important de la couleur aussi, c'est de rester, pour ce travail-là, de rester dans la réalité, dans une forme de réalité qui existe et qu'on peut tellement changer en noir et blanc.
C'est vrai aussi que par la couleur, on peut traduire l'aspect permanent de la vie au travers de la végétation qui reprend à certains moments. Et en vert, c'est quand même plus significatif.
Oui, mais c'est vrai que quand on se trouve dans un paysage désolé d'un coron qui va être abattu, il y a parfois, j'ai quelques images où on a l'impression d'être un peu à la fin du monde, quoi, ou à la fin d'une guerre. Et c'est vrai qu'un coron qui a été détruit complètement, dont il reste des ruines, en noir et blanc, ça va le traduire un peu mieux qu'en couleur, ou peut-être en couleur. Je me demande s'il n'y aurait pas de la douleur en plus en couleur. Quoi. Et quand tu parles de végétation qui reprend, parce qu'elle reprend toujours la végétation, même si c'est en plein milieu d'une plaque de macadam où ça pousse. C'est vrai que ça va être visible en couleur. En couleur. En noir et blanc, c'est plus difficile. Je pense qu'on a affaire à deux modes d'expression différentes et qui, en même temps, donnent des sentiments différents quand on regarde la photo.
Donc, beaucoup de photographes, j'allais dire pas étrangers, mais extérieurs à la région, sont venus faire des photographies du bassin minier, on va dire du Nord-Pas-de-Calais, pour résumer. Est-ce que tu ressens des différences entre quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui s'approprie d'une certaine manière, en raccourci, l'histoire, et essaie de traduire ce qu'il en témoigne, ce qu'il en voit sur le terrain, et toi qui as vécu, est-ce que tu ressens peut-être des échanges possibles, hein, dans la mesure où toi tu peux peut-être te considérer comme plus légitime à traiter, mais en même temps le regard de l'autre, ça permet peut-être de faire avancer ta réflexion?
Oui, certainement. Au Louvre, Lens, il y a eu les Doineaux, il y a eu une présentation des photos de Doineaux qui montrait surtout des mineurs. Moi j'ai pas un mineur là, mais j'en ai des photos de mineurs, mais je tenais pas à montrer le travail, c'était pas mon but. Et Doineau était venu pour un reportage, donc il a fait son reportage et puis il est parti. J'ai vu aussi les photos d'un photographe anglais dont malheureusement j'ai oublié le nom, à la Cité des électriciens, des photos en couleur de la cité, pas forcément de la Cité des électriciens, mais sur la mine. Il avait eu une commande du Sunday Times pour qui avait envie de montrer et de faire, il me semble, de faire un parallèle entre les mines en Angleterre et les mines en France. Et ben, j'ai vu ce travail il y a pas longtemps et j'ai trouvé qu'il était plus en recul. C'est très très beau boulot, mais en couleur, mais plus en recul. Et je pense qu'on sentait qu'il n'avait pas vécu dedans, quoi.
Donc on est à ce moment de l'histoire de ce bassin minier et puis du monde, hein, dans des évolutions, des révolutions aussi sur la pensée de l'écologie, de retour peut-être un jour, mais ça va être difficile, à la nature. Est-ce que le fait de témoigner d'une industrie minière d'une certaine époque et de sa disparition, pour toi, c'est à la fois ambigu et plein de sens ?
Ben, y a les deux, hein, comme tu dis, à la fois ambigu et plein de sens. Hein. Ambigu parce que beaucoup de personnes sont tentées de dire c'était mieux avant, mais ce mieux avant, il est bien sûr, il y avait une humanité dans les corons, il y avait l'entraide, il y avait plein de choses qui se passaient, mais il faut bien reconnaître que c'était un peu un monde à part. Hein. Un monde qui, par exemple, à Billy-Montigny, il y avait de ce côté-ci de la barrière et puis de l'autre côté de la barrière. Quoi. C'était deux mondes qui étaient quand même différents. Et moi, je suis issu d'un monde qui est pas réellement du monde des corons, mais qui a été adopté et qui a demandé à être adopté par les corons jusqu'à aller chercher son épouse, quoi.
Alors, le bassin minier s'est transformé, il y a une mutation, hein, qui a été favorisée peut-être aussi par les fonds européens, FEDER, etc. Et le paysage s'est radicalement transformé. Moi, j'ai toujours cette impression, parfois en allant sur des lieux, que je vais y retrouver des choses que j'ai vues il y a 50 ans, par exemple, alors que c'est complètement changé. On a l'impression un peu d'un schéma corporel paysager qui s'est complètement modifié et on a du mal encore à intégrer ce qui s'est transformé et comment il est actuellement.
Oui, et puis moi je pense aussi qu'en quelque sorte, il a été aseptisé. Mais je me demande si c'est possible de faire autrement, quoi, parce que on va pas retourner dans le passé. On peut être nostalgique, on peut le regretter aussi, on peut être vindicatif, de dire ce qui a existé, c'était une horreur. C'est vrai que quelque part, c'était une horreur. Je me souviens du jour où il y avait une catastrophe à Fouquières, et puis mon beau-père était en train de travailler à Fouquières. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qu'on, heureusement, qu'on ne revit pas. Et puis, il y a la nostalgie qui fait son travail, quoi.
Est-ce que le photographe que tu es apprécie les paysages actuels de restructuration des zones minières avec pas mal de végétation quand même, des espaces verts où les gens se promènent, l'été notamment, mais qui sont des espaces agréables?
Oui, c'est vrai, il y a des espaces agréables, on y emmène les enfants, on leur fait découvrir ce que ça avait été, ce que c'est maintenant, mais ce qui a été ne sera plus, quoi. Je crois que c'est impossible, hein. Et je connais aussi les paysages de la Ruhr, hein, dans le bassin minier allemand, et on est un peu sur la même logique, quoi. Il y a toujours une réflexion de dire je touche à des choses et en les touchant je vais les changer et comment je vais les changer et c'est pour les architectes etc. Ça doit être quand même pas facile, je me dis, hein. Et nous les photographes, on photographie, on a cette grande liberté de montrer ce qu'on veut, de choisir ce qu'on veut et d'orienter les gens, et voilà, quoi.
Donc je voudrais pas favoriser un lieu particulier, mais je pense que le Louvre-Lens, le musée du Louvre-Lens, mais aussi son espace qui a été conçu autour avec ses jardins, avec ses allées qui étaient autrefois utilisées à des fins fonctionnelles pour la mine, hein, qui sont transformées en sentiers ou en routes de promenade. Je pense que on a quand même respecté, d'une certaine manière, le travail des gens qui sont investis dans les lieux et la façon de restituer avec une certaine nuance le propos.
Je pense que le Louvre-Lens, c'est vraiment une belle réussite, hein, bien qu'il ait été aussi beaucoup critiqué quand il est apparu. C'est un lieu que j'aime beaucoup et c'est vrai que cette proximité entre les œuvres du Louvre et puis les cités minières qui sont tout autour, c'est un coup magistral, quoi. Et je me souviens, j'y suis allé une des premières fois où ça a été ouvert, et à tel point, je n'avais pas pris d'appareil photo, je voulais juste vivre ça. Et quand on a vu les gens venir avec des poussettes d'enfants, aller visiter le Louvre comme ça, c'est merveilleux, quoi. Et puis j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps, et il y avait du soleil, ils ont fait un petit plan d'eau sur le côté, et on dirait qu'on se retrouve à Paris avec des guinguettes. Je me demande même s'ils ne vont pas ouvrir une guinguette. Ben c'est magique, et c'est une évolution plus qu'intéressante, une magnifique évolution de l'esprit du bassin minier, peut-être.
Donc peut-être une certaine façon de penser les plaies d'un territoire qui a été quand même abîmé, mais aussi de le repenser.
Oui, c'est ça. C'est que le président de la République qui a fait le choix de mettre le Louvre à Lens, c'était aussi une proximité aussi avec le Racing Club. Quoi. C'est, sur le même lieu, on a le Louvre et puis on a le stade du Racing Club, deux ensembles architecturaux qui se côtoient et qui concernent deux mondes différents, mais tellement actuels.
Voilà, donc témoigner, mais aussi mettre en perspective hein, toute une période de l'histoire de ce bassin minier, ses esthétiques d'une certaine manière et ses émotions. C'est l'objet donc de ces deux livres de Patrick Devresse, Coron avec un S bien sûr, en noir et blanc ou en couleur, à vous de faire le choix.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et si vous pouvez acquérir ce livre ou avoir l'occasion de le feuilleter, d'y découvrir mes images qui vous sont destinées.
Comment on se le procure ?
Alors, il suffit de prendre contact avec moi via mon site internet patrickdevresse.com et puis je vous enverrai le livre, je vous donnerai les conditions pour l'acquérir et voilà.